Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la mission Planck en compagnie des membres de l'équipe de la mission. François Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS et vous travaillez à l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes en charge pour Planck de la coordination du traitement des données scientifiques, entre autres. Et c'est vrai qu'on se pose la question, François Boucher, que le satellite mis à poste du côté des points de Lagrange, en tout cas d'un point de Lagrange, lorsqu'il va se mettre à fonctionner, que tout sera réalisé sur le plan orbitographique, que va-t-il se passer sur le plan scientifique? Que va-t-il se passer au moment où il va arriver à poste?
Alors, ça sera déjà la continuation d'une longue histoire parce que le Planck aura progressivement descendu en froid, comme on dit, pour atteindre sa température de fonctionnement. Puis, il va être mis à poste, c'est-à-dire à l'endroit où il doit fonctionner. Puis, il va rentrer et va commencer une phase de réglage pour s'assurer que l'instrument fonctionne au mieux, que tous les paramètres sont bien mis. Et ça, c'est en fait le début de la phase dite d'opération. C'est-à-dire qu'on reçoit des données du satellite à travers un circuit compliqué qui est une antenne en Australie. Les données vont en Allemagne, on les récupère et elles vont à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à Orsay, où se trouve le centre d'opération de l'instrument. C'est-à-dire que c'est là que les équipes des scientifiques reçoivent des données, essayent de les comprendre rapidement et éventuellement envoient des commandes pour modifier et optimiser au mieux le fonctionnement de l'instrument. Et puis, une fois que cette première phase-là est terminée, c'est-à-dire au bout de quelques semaines, on rentre dans un mode beaucoup plus routinier, et en tout cas on l'espère, de train-train où on ne touche plus à rien. Et où en fait l'équipe opération, ce qu'on espère, c'est qu'elle vérifie que tout va bien et qu'il y a besoin de rien changer. Donc on reçoit les données, on les analyse, on a des tas d'écrans de contrôle, on regarde, on fait un certain nombre de tests, et puis on envoie des rapports au reste de l'équipe satellite, et éventuellement on a à prendre des décisions sur quelques modifications de la trajectoire. Et puis cette phase-là, du point de vue, si on suit le chemin des données qui tombent du satellite, elles arrivent à l'équipe opération, et puis après, elles sont mises dans une grande base de données, qui elle est à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui stocke cette fois toutes les données. Et au bout d'un an, il y aura toutes les données reçues depuis un an, de toutes les formes. Alors là commence une deuxième phase qui n'est plus l'opération de l'instrument, mais c'est l'analyse des données scientifiques au sens de les traiter pour transformer un tas, on va dire, de flots temporels en science.
Alors, on va revenir dessus, mais revenons juste un instant sur le moment où la première lumière, entre guillemets, va arriver. Est-ce qu'une région particulière du ciel est visée? À quoi ressemble la première lumière? Ce sont des données? C'est une image? C'est un flux d'informations? Qu'est-ce que c'est?
Alors, pour ça, il faut revenir à la manière dont Planck parcourt le ciel. Son œil, entre guillemets, ou son regard plus exactement, parcourt le ciel sous forme d'un quasiment un grand cercle en faisant un tour du ciel environ toutes les minutes. Donc il tourne lentement sur lui-même et c'est une sorte de pinceau qui parcourt un cercle sur la voûte céleste. Et puis au bout d'environ 45 minutes à une heure, on décale et on regarde légèrement à côté. Donc on fait un autre petit anneau. Et puis toutes les heures, comme ça, on se décale très légèrement et on fait un autre petit anneau. Alors, vous imaginez que vous avez donc une série d'anneaux, les uns à côté des autres, et progressivement, bah, vous allez fabriquer, en les mettant les uns à côté des autres, entre guillemets, et en les co-analysant, vous allez fabriquer une image de toute la voûte céleste.
Et ça, c'est la première lumière.
Alors, la première lumière, c'est le début de ce processus-là, puisque je vous ai dit, en gros, il faut une heure pour se décaler. En fait, on est de l'ordre d'un degré par jour. Ce qui fait qu'au bout de 365 jours, eh bien, on a fait le tour du Soleil, 360 degrés. Donc voilà, on fait en gros, on couvre, entre guillemets, un anneau de l'ordre de 1 degré sur le ciel tous les jours. Donc la première phase, la première image, si vous voulez, c'est un anneau de quelques degrés de large.
Que les spécialistes apprécieront.
Absolument.
Qui sont les clients de Planck? Qui va recevoir l'information et qui attend aujourd'hui ces données?
Alors, il y a beaucoup de clients, mais de nature différente. Il y a d'abord ceux qui ont proposé ce projet initialement, donc les scientifiques qui ont voulu cet instrument, l'ont conçu et qui vont en analyser les données. Donc ça, c'est une partie de la clientèle, mais la manière dont le projet est structuré, c'est qu'on va livrer les données transformées sous une forme utilisable par une communauté beaucoup plus large à l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Et donc, c'est des produits qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, où on n'a pas besoin d'avoir construit l'instrument. Et en gros, ça va se présenter sous la forme de cartes du ciel à différentes fréquences. Il y en a d'autres, mais disons le plus simple. Et ça veut dire que, notamment, des gens qui n'ont pas été associés à la saga de Planck du tout et qui ont de nouvelles idées vont pouvoir éventuellement les tester avec les cartes de tout le ciel de Planck à différentes fréquences. Donc, c'est une des manières de s'assurer que les données, qui sont très onéreuses à obtenir, sont exploitées au maximum, puisque finalement, à terme, la communauté mondiale peut jouir de ces données. Et ce n'est pas propre à Planck. C'est une tendance lourde en astronomie qui est les concepteurs ont une période propriétaire, c'est-à-dire pendant laquelle ils ont l'exclusivité de l'analyse scientifique pour avoir un peu le retour sur leur investissement. Mais cette période est bornée et de manière assez courte pour que les données soient encore juteuses et intéressantes et mises à disposition de la communauté mondiale pour que tout le monde puisse tester de nouvelles idées. Donc ces données livrables maintenant, je peux vous dire un peu de plus ce qu'il en est. C'est à la fois le flux de données temporelles des détecteurs, mais une fois qu'on les a compris, ces flots de données, qu'on les a calibrés, qu'on a d'une certaine manière compris leur rapport avec le ciel. Et puis une première transformation sous forme de carte, et puis une transformation supplémentaire qui est une combinaison des cartes à différentes fréquences entre elles pour en sortir la carte des processus d'émission de différents phénomènes. Alors une partie, c'est la galaxie. Une autre partie, c'est des amas de galaxies, ou même des galaxies. Et puis la partie qui est le cœur du cœur de la science de Planck, qui est la carte de l'émission du rayonnement cosmologique ou rayonnement fossile.
Alors, que veut dire traiter les données? Parce qu'on comprend bien qu'entre le satellite et les utilisateurs, il y a cette transformation, ou en tout cas cette mise en forme des données pour peut-être éliminer le bruit de fond du satellite lui-même, etc. etc. Que veut dire traiter une donnée?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une transformation qui est, on combine des informations pour les rendre plus facilement accessibles. Alors, par exemple, on va prendre la mesure en fonction du temps de différentes directions du ciel, et puis on le remet, entre guillemets, en utilisant l'information de pointage sur le ciel pour fabriquer une carte. Et puis ces cartes, on va les combiner entre elles pour sortir différents processus, et puis on va analyser ces cartes. Donc ça, vous pouvez imaginer ce processus comme une sorte de compression des données pour en sortir des choses de plus en plus abstraites, de plus en plus proches finalement de l'objet scientifique qui vous intéresse. Alors ça, c'est un aspect qui est l'aspect peut-être le plus facile à comprendre, mais il y a un autre aspect qui est, on va utiliser toute cette redondance pour comprendre comment ce qu'on a dans la boîte est relié à ce qu'il y a dans le ciel. Parce que c'est bien beau d'avoir des données, mais il faut comprendre ce qu'elles veulent dire. Et puis, il faut s'assurer qu'on comprend bien ce qu'on dit. Alors, pour rendre les choses plus tangibles, par exemple, on a des éléments de redondance, c'est-à-dire qu'on mesure plusieurs fois la même chose. Par exemple, on a deux détecteurs qui mesurent la même chose. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est de dire, est-ce que quand j'ai fabriqué la carte avec le détecteur A, est-ce que c'est la même au bruit près, et donc ça peut se caractériser, que celle que me donne le détecteur B. Donc on peut faire des tests de nullité, entre guillemets, c'est-à-dire prendre la carte des différences et dire, oui, ça ressemble bien à que du bruit. Alors voilà un exemple. Mais d'une manière plus générale, on va essayer de se donner des éléments qui permettent de comprendre comment ce qu'on a dans la boîte est relié à ce qu'il y a dans le ciel. Alors, on essaye de calculer la fonction de transfert, entre guillemets, c'est-à-dire comment l'information a été processée, traitée, si vous voulez, par l'instrument lui-même, et puis par le traitement lui-même. Donc on essaye de construire une représentation de comment ce qu'on a dans la boîte est relié au ciel. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a testé, on inverse le processus pour déduire la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur le ciel. Il faut donc comprendre les données, inverser le processus. Et puis après, il y a une étape qui est encore plus intéressante et qui est de s'assurer qu'on borne les incertitudes dans le processus. Parce qu'au bout, on va faire des inférences sur la cosmologie, sur l'univers. Donc on va dire le rayonnement fossile, il ressemble à ça et ça veut dire telle chose pour l'expansion et ça pour l'énergie noire. Ce qui est intéressant, c'est dans la carte que vous allez produire du rayonnement fossile, c'est être sûr qu'il n'y a pas un petit effet pervers, un effet thermique qu'on n'a pas bien pris en compte, l'émission de la galaxie, enfin, tous ces effets qu'on va appeler des effets pervers. Et donc, ce qu'on va vouloir, on va essayer de les traiter, tous ces effets pervers. On va essayer de les analyser, de les corriger. Mais au bout, il faut qu'on fasse une chose qui est encore plus compliquée, qui est d'évaluer l'effet dévastateur maximal qu'elles peuvent avoir. Et essayer de comprendre en disant, bon, ben voilà, si j'ai pu me tromper, j'ai pu me tromper de combien? Et donc, ce qui reste, je peux évaluer ça à quoi? Avec une probabilité. Est-ce que ça peut, une probabilité plus ou moins forte, que ça soit de telle forme ou de telle forme? Et puis, vous allez voir, vous allez dire, bon, ben voilà, si j'ai un effet de cette nature, comment ça va affecter les réponses cosmologiques que je vais apporter? Et donc, bah, vous allez vous trouver dans deux cas de figure. Soit ça affecte beaucoup les réponses et à ce moment-là, bah, il faut continuer à travailler parce que c'est pas suffisant. Ou vous construisez votre cas pour vous instruisez votre cas pour pouvoir vous présenter devant le reste de la communauté scientifique mondiale et dire voilà tous les tests qu'on a fait, voilà pourquoi on pense que ce qui reste comme effet pervers ou trompeur est tellement petit que ça ne peut pas changer la réponse qu'on vous apporte.
Ce qui est drôle, c'est que votre instrument est à la fois votre meilleur ami et en même temps votre pire ennemi, puisque de son influence pourrait dépendre la qualité de la mesure que vous allez réaliser sur le ciel.
Alors, c'est pour ça que justement, tout le travail des instrumentalistes, dont je ne fais pas partie, a été de minimiser tous les effets instrumentaux pervers auxquels on peut penser. Donc, il y a énormément d'intelligence qui va dans contrôler les différentes sources d'erreurs potentielles et soit par conception même les rendre négligeables, ce qui est une possibilité, ou quand on n'y arrive pas parce qu'on bute sur des limites de la technologie, on se donne les moyens a posteriori de régler le problème et de le régler par traitement de données. Alors, un des exemples, par exemple, c'est on s'assure qu'on a mis des thermomètres à bord pour suivre l'évolution de la température potentielle de l'instrument, et puis on va corréler ça, on va regarder si par hasard il n'y aurait pas des choses dans la mesure qui va comme les fluctuations de température de tel étage ou tel étage. Si oui, ça veut dire qu'on est juste en train de regarder des fluctuations qui n'ont rien à voir avec le fond cosmologique, et donc on va pouvoir corriger. Donc il y a énormément d'intelligence dans l'instrument pour soit faire disparaître les effets pervers, soit se donner les moyens de les combattre a posteriori. Et puis, il y a une dernière intelligence qui est se donner les moyens de détecter, et c'est peut-être la plus cruciale, les moyens de détecter les effets pervers auxquels on n'a pas pensé. Et donc, comment on fait ça? Bah, c'est très simple. C'est on refait la mesure dans des conditions différentes. Et donc, la redondance est un élément absolument crucial, puisqu'on a une redondance en termes de détecteur, on a une redondance en termes de temps de détection. Par exemple, on revient au même point toutes les minutes, et puis on refait le même relevé du ciel à 6 mois d'intervalle, et puis on y revient plusieurs fois. Et à chaque fois, on se pose la question, est-ce que toutes ces mesures nous disent bien la même chose une fois qu'on a corrigé tous les effets pervers?
Sans cesse sur le métier, remets ton ouvrage. Une question peut-être simple, la réponse complexe, c'est finalement entre le moment où Planck marche, s'ouvre au ciel, les mesures arrivent, et la publication de la première carte du fond de ciel, avec ses résultats tant attendus, bien définis, calibrés, sûrs, combien de temps?
À peu près 3 ans. Et quelque chose qu'il faut aussi comprendre dans la mise en œuvre, qui fait qu'en fait, Il y a une expérience dans l'expérience, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on a construit l'instrument, il faut construire le centre de traitement de données qui va avec. Et là aussi, il y a aussi pas mal d'intelligence et pas mal de ressources qui doivent y passer, parce que ce qu'on va faire notamment, c'est qu'on va simuler le comportement de l'instrument, c'est-à-dire qu'on va construire une machine, un programme informatique, qui va faire des fausses données dont on pense qu'elles sont à peu près identiques des vrais, au vrai, étant donné ce qu'on comprend. Et puis, donc on va générer, par exemple, toutes les données de HFI. Par exemple, c'est ce qu'on fait en ce moment. À l'IAP, il y a des gens, des ingénieurs qui travaillent là-dessus. On fabrique un nom de données. Et puis, on l'analyse. Et puis, on se dit, et là, on a l'avantage de connaître la réponse. Donc, on connaît la réponse, on fait le traitement, et puis on dit, bon, bah, ah oui, tiens, on s'aperçoit qu'on ne rend pas exactement les justices au processus. Alors ça, c'est justement ce qu'on va appeler des simulations de Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on va générer des fausses données, mais pas simplement une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Donc en fait, on va non pas faire l'analyse des données Planck, parce que ça, finalement, ça représente quelques téraoctets, mais on va faire des milliers de fois l'analyse de toutes les données. Et donc en fait, l'analyse des vraies données n'est qu'un aspect presque marginal en termes de temps de calcul, parce qu'en fait, Vous vous entraînez, vous faites des centaines de fois cette analyse sur des fausses données. Et c'est de ça que vous allez comprendre de combien vous pouvez vous tromper. Donc en fait, il faut bien mettre ensemble tout un ensemble d'arsenal pour suivre toutes ces données, comprendre ce qui a été fait, les mettre en regard. Et donc, il y a aussi beaucoup de savoir-faire et d'innovation technologique qui va aussi dans les aspects traitement de données, même si, en fait, on pense plus à la manière de les fabriquer à partir du vrai ciel. Il y a aussi comment on les fabrique pour de faux, pour pouvoir comprendre comment il faut analyser les vraies données.
Planck, combien de scientifiques ?
En tout et pour tout, il doit y avoir à peu près 400 personnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde est associé de la même manière. Ça, c'est tous les scientifiques qu'on a y compris recrutés ou qu'on a embauchés, entre guillemets, ou séduits pour regarder tous les aspects des scientifiques de Planck. Maintenant, les gens qui sont au cœur de HFI, c'est un nombre nettement plus petit. Et disons que les gens qu'on a assemblés, disons les gens qui pilotent HFI, on a assemblé un team qu'on appelle le team de cœur. Bon, bah ça c'est plutôt une centaine de personnes.
Bon.
Et il y a encore après dans les gens qui ont conçu l'instrument, c'est un nombre encore plus petit. On a une vingtaine de personnes peut-être qui ont conçu l'instrument, peut-être une vingtaine de personnes qui ont été au cœur de la conception du traitement des données. Donc en fait. Mais au bout, il faut tellement de compétences diverses, de profils, etc., que l'équipe minimale qu'on a assemblée pour pouvoir traiter les données, c'est une centaine de personnes.
Merci François Boucher. Je rappelle que vous êtes directeur CNRS à l'IAP, l'Institut d'Astrophysique de Paris, et que vous êtes en charge, entre autres, de la coordination du traitement des données de Planck. Merci.